Bonjour tout le monde et bienvenue à Droit de parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval. On se retrouve aujourd'hui déjà pour le deuxième épisode de la deuxième saison. Et la semaine dernière, j'ai invité deux de mes collègues de l'AED, soit Samuel Godreau, qui est le vice-président aux finances, et Héloïse Pradette, qui est la vice-présidente aux affaires internes. Et on a parlé des opinions impopulaires que les gens ont sur les études en droit. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller l'écouter après l'épisode de cette semaine, il est disponible sur Balado et Spotify. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir deux habitués du podcast, donc deux charmantes dames que j'ai reçues à la première saison de Droit de parole. Donc, on a Élodie et Dominique. Élodie qui est venue dans le cadre de l'épisode sur le Bureau d'information juridique, mais qui a également un double rôle dans l'AED parce qu'elle est également présidente du comité aux affaires professionnelles. Elle pourra vous en parler plus tard. Et Dominique, qu'on a également reçue, qui est notre chère conseillère à l'emploi à la Faculté de droit. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'épisode cette semaine, je vous laisserai vous présenter, même si on s'est déjà parlé, ça serait bien de peut-être faire un rappel sur votre rôle, soit dans l'association étudiante ou avec la faculté. Donc, Élodie, tu peux commencer, nous expliquer un peu le but du CAP, qu'on appelle le comité aux affaires professionnelles, puis ton rôle au sein de ce comité-là.
Mais bonjour Andréane, bonjour Dominique. Encore très contente d'être faire partie du podcast pour la deuxième saison. Comme le disait Andréane, là, la dernière fois que je suis venue, c'est vraiment avec mon chapeau de présidente du Bureau d'information juridique. Aujourd'hui, je suis là avec mon chapeau de présidente du Comité aux affaires professionnelles. Je le répète, je suis étudiante en troisième année et super impliquée dans l'association étudiante. Le comité aux affaires professionnelles, c'est quoi? Bien, c'est un comité de l'AED qui a pour mission de promouvoir les différents domaines de droit et les différents parcours professionnels aussi. Tout au long de l'année, là, on peut organiser une multitude d'événements sur les différents domaines de droit, les différents métiers qui s'offrent aux étudiants du baccalauréat en droit. On prépare également plusieurs conférences avec des différents cabinets privés, différents ministères, la fonction publique aussi. Aujourd'hui, on étire un petit peu notre compétence afin d'offrir aux étudiants de la faculté qui soit feront la course au stage ou soit tout autre étudiant qui veulent peaufiner un peu leur CV, leur lettre de présentation pour trouver soit un emploi étudiant en droit ou trouver un stage du barreau qui s'en vient ou toute autre personne même, là, ça pourrait être bien utile aujourd'hui, ce qu'on va donner comme information. Pourquoi en mode podcast, on trouvait que c'est pertinent, outre qu'une petite conférence, comme on a l'habitude de donner une conférence midi, c'est différent de l'ordinaire, c'est différent un peu, ça persiste dans le temps. S'il y en a qui veulent, qui n'étaient pas disponibles pour une conférence midi, peuvent l'écouter chez eux le soir, dans leur auto quand ils font de la route. Ça reste tout le temps pertinent, puis c'est pas des outils qui vont passer de date, je pense.
Absolument.
Je prends la balle au bon.
Oui.
Allô à toutes les deux. Quel beau privilège d'être à nouveau invitée à ton podcast, Andréane.
Oh,
merci de l'invitation et quel grand plaisir et privilège d'accompagner Élodie. Parce qu'elle et moi avons eu cette année à collaborer à différents niveaux pour l'organisation d'événements pour les étudiants. Mais pour ma part, une conseillère en emploi, c'est quoi? C'est une professionnelle de l'orientation, en fait, qui connaît à la fois la personnalité, l'importance de la conscience de soi et qui connaît le marché du travail aussi. Alors, mon principal objectif avec les étudiants de la faculté, c'est de les outiller en avance. De un, à bien se connaître. De deux, à identifier leur objectif professionnel. Puis de trois, bien entendu, à concevoir les bons outils stratégiques pour intégrer le marché. Alors, on parle de CV, lettre de présentation, profil LinkedIn, technique d'entrevue. Alors, dans le cadre de mon mandat, moi, je relève du service du développement professionnel, qui est une importante entité sur le campus de l'Université Laval, où on y retrouve plus de 25 experts en employabilité. Mais ma tâche, elle est vraiment attitrée à tous les étudiants de tous les cycles de la faculté de droit. Alors, raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui.
Super, merci. Puis avant de continuer, là, je voulais rappeler que Dominique, tu es déjà venue là, la session dernière avec Selena, qui est notre vice-présidente aux affaires professionnelles dans l'AED. Puis l'épisode, là, il est encore disponible, si je me souviens bien, c'est l'épisode 5 qui s'appelait « La vie professionnelle en droit ». Donc, en complément avec l'épisode d'aujourd'hui, je pense que ça serait vraiment pertinent pour les étudiants d'aller écouter celui-là aussi. Je pense que les deux ensemble, ça fait comme le tour de toute l'information pertinente à avoir pour... se préparer à votre vie professionnelle après votre vie universitaire. Donc, on va tout de suite sauter dans l'épisode de cette semaine et les sujets qu'on va aborder. Donc, premièrement, là, comme vous le savez, la course au stage approche à grands pas, mais aussi toutes les autres opportunités professionnelles. Donc, on va aborder aujourd'hui les sujets de la recherche d'emploi, du dossier de candidature, les différents outils qui sont disponibles pour les étudiants, puis les techniques d'entrevue. Donc, on peut commencer tout de suite là, avec le premier sujet, si je peux dire, qui est la recherche d'emploi et de stage. Puis ça, je pense que c'est vraiment ce qui arrive le plus à grands pas là, avec la course au stage.
Non, c'est ça. Mais surtout, avant le CV, avant la lettre de présentation, il faut trouver notre job, notre stage de rêve. Je pense que c'est ça qui est le plus important, qui peut nous motiver à justement à écrire une belle lettre de présentation, à faire un beau CV. Quand on a un but au final qui nous intéresse vraiment beaucoup, ça fait en sorte qu'on peut mettre encore plus de temps dans tout ça. Dominique, comment qu'on fait ça? Autant que ce soit pour la course au stage ou autre, là, comment qu'on fait pour trouver notre job de rêve, notre stage de rêve? Il y a tellement d'opportunités qui sont offertes à nous, là.
Ah, t'as tellement raison. Quelle grande question existentielle.
C'est quasiment ça.
Surtout, hein, parce que vous le savez, on vous le dit dès le jour 1 que vous entrez au baccalauréat en droit. Dès qu'on parle des opportunités, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bac en droit mène à tout. OK. Intéressant. Donc, réconfortant, j'oserais même dire. Mais pouvoir aller vers tout, c'est comme pouvoir aller vers rien. Donc, c'est comme de dire, ben, si on peut aller partout, c'est encourageant, mais comment est-ce que je cible, moi, ce qu'on identifie comme étant un objectif professionnel? Et la première chose à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est vous rappelez-vous de la raison pour laquelle vous avez au départ choisi le baccalauréat en droit? Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous rêvez, hein, il le dit pour reprendre ton mot, job de rêve, depuis plusieurs années? Est-ce que vous avez été ambivalent entre un ou deux programmes? Est-ce que vous avez décidé d'entrer dans le bac parce que vous aviez les notes puis que vous alliez décider en cours de route qu'est-ce que vous alliez faire? Moi, je vous avoue que peu importe la raison pour laquelle vous avez choisi le bac, l'important, c'est de faire un recul puis une réflexion. Depuis que vous y êtes, qu'avez-vous vécu comme expérience dans l'académique? Rappelez-vous les cours que vous avez suivis. Rappelez-vous les profs qui vous ont enseigné. Prenez le temps de réfléchir aux conférences auxquelles vous avez assisté. Et là, moi, je vous inviterais à retrouver ce que j'appelle vos moments « wow ». Et comme par exemple un cours que vous avez eu à la session 2, semaine 12, où le prof vous a partagé une nouvelle théorie, puis vous avez fait « Oh my God, ça existe! » Retrouvez ces éléments clés-là, à prime abord. Qu'est-ce qui vous allume? Ensuite, commencez à départager les domaines de pratique. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait un profil de généraliste, puis vous avez l'impression que vous aimez absolument tout? Ou vous commencez tranquillement à faire des éliminations, ou vous avez vos favoris, hein, ces deux chemins. Soit on élimine ce qu'on n'aime pas, ou on se concentre sur vraiment ce qu'on sait qu'on aime. Donc, faire le lien avec ça et tranquillement se centrer vers le type d'environnement dans lequel on voudrait se retrouver, puis peut-être la clientèle qu'on voudrait accompagner. Fait que ça, je vous dirais qu'en amont, là, c'est vraiment la première réflexion à faire quand on débute.
Parfait. Puis, mettons, là, si on y va plus technique, est-ce qu'on trouve un stage sur Internet? On trouve un stage dans les journaux? C'est plus vraiment le cas, là, mais...
Les journaux, ça existe encore, ça? Oui, il y a des médiums. Hein. Sur le web, ben, écoutez, la première stratégie vers laquelle je vous tournerais, moi, c'est le site web du service de développement professionnel qui se trouve à être aussi un job board. Un site d'affichage d'offres d'emploi. En tant que milieu universitaire, on a toute une équipe au développement des affaires qui s'assure de sensibiliser le marché du travail dans tous les secteurs d'activité confondus pour vous offrir à la fois des emplois étudiants à temps partiel pendant vos études. Ça, c'est une bonne façon de commencer. Un boulot d'été. Commencer à s'intégrer dans un environnement juste pour aller voir, juste pour aller essayer. La course au stage, on ne va pas se le cacher, c'est un gros momentum de réflexion qui peut créer des inquiétudes puis des stress, mais moi, je vous dirais, en même temps, la beauté de la chose, c'est que ça force un peu la réflexion. Déjà, en deuxième année, de dire « Hey, est-ce que les grands cabinets, c'est pour moi ou pas? » Donc, commencer la réflexion en deuxième année, c'est bon parce que ça vous évite de vous rendre jusqu'à votre graduation puis que là, vous soyez plutôt face à l'entrée au barreau en vous disant « Oh my God! »
Être obligé de faire un choix rapidement sans avoir
pris
le temps
de dépêcher.
Penser. T'sais.
Exactement, exactement. Alors, ça, je vous dirais, ou les implications aussi, hein, on en a parlé dans le podcast de la session dernière, Andréane, tu faisais le lien, hein, vous impliquer dans des comités qui vont vous mettre en lien avec des employeurs pour découvrir ce qu'ils font, c'est aussi une bonne idée pour apprendre à se connecter tranquillement.
Super. Donc, on va aller au deuxième, le deuxième sujet, là, qui est le dossier de candidature, qui peut vraiment se diviser en deux aspects, soit la lettre de présentation et le CV. Donc, je pense que ça serait bien là, de les décortiquer parce que même s'ils sont complémentaires, puisqu'on les envoie ensemble, ils ont quand même des caractéristiques vraiment différentes. Donc, je pense qu'on pourrait commencer avec la lettre de présentation. Donc, Élodie, je te passe...
Moi, j'avais une question pour Dominique. Oui. Une question plus abstraite, moins technique. Comment qu'on fait pour avoir une lettre de présentation qui se démarque des autres?
Ça, là, c'est... Bien, je vous dirais que c'est votre priorité, c'est une bonne question, puis c'est ce qui place l'étudiant dans la plus importante zone de flou. Comment est-ce que je peux faire pour choisir des mots dans une séquence de phrases qui va m'assurer sortir du lot? Quand on sait qu'un dossier de candidature, à la base, hein, c'est technique-là. On ne peut pas faire ce qu'on veut d'un dossier de candidature. Il y a des normes à respecter, puis c'est la façon dont vous vous y prenez pour démontrer à un employeur que vous savez vous conformer à des règles, vous êtes capable de faire des documents selon les normes, que vous avez des habiletés rédactionnelles. Mais le côté authentique, Élodie, de la lettre, là, ben c'est ton objectif professionnel à toi, de un, qui va se baser sur ton bilan. Faire un bilan personnel, c'est la plus importante étape avant la rédaction d'une lettre de présentation, parce que tous les recruteurs, tous les gens en droit vont vous le dire, soyez honnête dans votre propos. Et être honnête dans son propos, ça veut dire être capable de vous présenter dans un vocabulaire qui est clair et aligné sur vos forces de personnalité, vos compétences. Et là où vous allez faire un lien authentique, c'est en faisant ressortir vos expériences de vie à vous et que vous allez faire les liens avec vos dominances de personnalité. Fait que on peut pas sortir du lot avec une lettre très original et hors norme. C'est ça que j'aurais le goût de répondre à ta question aussi. Donc, est-ce que de faire quelque chose de flyé, ça va nous faire sortir du lot? Ah, bon, on va reconnaître que vous avez fait quelque chose de différent, mais est-ce que ça attirera l'attention sur les bonnes choses? Pas nécessairement.
Oui, je comprends.
Pas nécessairement. Donc, c'est là où il faut faire attention à bien réfléchir à quel vocabulaire on veut utiliser pour se rendre accessible en mots.
Parce qu'il faut être original, se démarquer, mais rester dans une petite boîte serrée, un peu de formalité.
Bien, quand on parle de formalité, on parle du format.
Hein? C'est ça.
On parle de la forme, dans le fond. Une lettre de présentation, là, c'est une page. C'est clair. C'est officiel. C'est une lettre qui ne déborde jamais sur une deuxième page.
Ça, c'est pas facile, hein?
Oh, que c'est pas facile!
On a des choses à dire.
Moi, je vais vous dire, là, on est entre nous, on est des universitaires, nous autres, hein? Alors, dans nos habiletés rédactionnelles, utiliser beaucoup de mots, là, pour remplir une page, deux pages, trois pages, on est bien, bien bon là-dedans, à multiplier l'utilisation des mots puis des adjectifs pour décrire ce qu'on veut. C'est là l'exercice le plus important de vous tourner vers vos habiletés de synthèse. Trouver une façon d'écrire de manière plus directe et spontanée. Là, je vais faire une parenthèse qui est quand même importante parce que pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous êtes à préparer une demande d'admission à un programme au cycle supérieur ou si vous êtes de ceux qui êtes intéressés par la magistrature et en particulier la Cour suprême, là, il n'y aura plus la norme d'une page. Là, on va aller à deux pages parce que dans certains contextes comme ceux que je viens de vous parler, on va appeler ça plus une lettre de motivation. Fait qu'il faut se présenter, oui, mais il faut justifier pour quelle raison l'opportunité nous intéresse, raison pour laquelle on a besoin d'un peu plus de contenu. Mais sur le one-pager de la lettre de présentation, moi, je vous dirais, faites une première rédaction sans vous censurer, là. Puis vous pratiquerez vos habiletés de synthèse à la fin pour vous assurer de garder l'essentiel.
Parce que quand on écrit quelque chose, quand on écrit une lettre, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, là, on dirait que j'ai peur d'oublier quelque chose quand je suis en train d'en écrire une autre. Ça me donne une autre idée, mais c'est peut-être pas le moment de le mettre dans ma lettre. Fait que là, on dirait que j'écris tout. Puis là, justement hier, là, je travaillais ma lettre de présentation. J'étais à une page et demie, là. Fait qu'il va falloir que je synthétise quelque part.
Puis à quelque part, je vais vous donner un truc. Tout ce que vous écrivez, là, c'est préparatoire à votre entrevue, hein? Retenez là, que tout ce que vous êtes en train d'écrire à propos de vous, là, ça va vous permettre de vous présenter éventuellement aux recruteurs. Ça va vous permettre à répondre à de nombreuses questions qu'on va vous poser pour découvrir votre personnalité. Donc, tout ce que vous écrivez en plus, comme toi, Élodie, là, la demi-page de trop là, qu'il y a sur ton dossier de candidature, ne supprime pas cette information-là. Garde-la dans un document. Pas de ta tête, puis pas du compte. Ben, faites-toi un document à part. Ouais, faites-vous un document à part. Document de référence préparatoire à mes questions d'entrevue. Fait que là, plutôt que de le laisser en texte, prends toutes tes phrases, fais-les en point de forme. C'est toutes des futures réponses. Puis après ça, bien, dans le lot des points que tu as, garde l'essentiel de ce que tu as l'impression qui est le plus représentatif. Puis moi, je vous ferai un lien avec ce que vous avez été porté à dire aux gens dans vos activités de réseautage. Quand vous rencontrez quelqu'un, là, puis vous dites « Bonjour, je m'appelle Andréanne, ça me fait plaisir de vous rencontrer et voici qui je suis », qu'est-ce que vous aviez eu le réflexe de dire? Bien, habituellement, là, la lettre, ça devrait être la continuité des propos que vous avez déjà tenus avec des gens dans des événements.
Puis là, Dominique, on a parlé des grandes lignes, tout ça, il faut garder une page. Qu'est-ce qu'on met concrètement en ordre dans une lettre de présentation?
Ah, oui.
Quand on veut commencer, on commence par quoi?
Oui. Bien, la première chose, c'est la ville, la date. C'est facile, hein? c'est le premier élément en haut que vous allez écrire et les coordonnées de l'employeur. C'est ce qui débute, votre lettre. Okay. Le nom de la personne qui s'occupe du recrutement, l'entreprise, son adresse. Ensuite, on met ce qu'on appelle un motif à la lettre qui s'intitule un objet où vous diriez, par exemple, dossier de candidature pour un stage de la formation professionnelle du barreau en 2025. L'objet, ça pourrait okay. aussi être emploi d'été étudiant pour l'été 2023. Exemple. Donc, ça, c'est votre objet. Quand on commence l'intitulé, on adresse à la personne. Donc, monsieur, bonjour, monsieur, madame, maître. Et la première information à partager, c'est ce qui se trouve dans le premier paragraphe, c'est de dire pourquoi l'organisation visée nous intéresse. Donc là, on va y aller en termes de « c'est avec intérêt et enthousiasme que je dépose ma candidature pour un stage de la formation professionnelle du barreau dans le processus 2025 ». Et là, vous partagez votre intérêt à aller vers un cabinet privé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un participant à la course au stage et que vous vous dirigez vers un cabinet privé, par exemple? Ensuite, le paragraphe le plus prioritaire et le plus long. Moi, je vous le dis là, des heures et des heures et des heures de réflexion. C'est le paragraphe bilan que je vous parlais tantôt. Le deuxième paragraphe, c'est là où vous allez présenter votre personnalité, vos compétences transférables qui sont pertinentes pour un employeur ou pour un milieu de travail en général. Alors, c'est là où vous allez réfléchir à des structures de phrases où vous allez présenter soit votre parcours scolaire académique en lien avec des compétences professionnelles. Souvent, on sait qu'on devient bon en travail d'équipe parce qu'on fait des travaux d'équipe dans l'académique ou dans des travaux de session, par exemple.
C'est ça ce que tu veux dire par compétences transférables.
Transférables, ouais. Oui, exactement. Des habiletés d'organisation, des habiletés de planification. Ça rentre tout dans du savoir-faire. Donc, c'est des habiletés que vous avez, que vous pouvez mettre à contribution au sein d'une organisation. Il faut trouver, dans la façon de vous présenter, les mots-clés qui vous décrivent le plus. Et ça, là, je vais vous poser une question. Je ne vous invite pas nécessairement à y répondre d'emblée, mais je vais vous inviter à y réfléchir parce que ce n'est pas une question d'entrevue, ça, c'est une question de coach, OK? Quel impact avez-vous sur les gens qui vous entourent?
C'est une bonne question, ça.
C'est une grande question, hein?
Une grande question.
Et quand vous arrivez à trouver les mots-clés qui répondent à cette question-là, vous avez les essentiels de façon très authentique de ce que vous devez écrire à propos de vous. Et c'est ce qu'on appelle les mots-clés qui vous décrivent. Et pensez là, à choisir ce qui est aligné avec votre objectif professionnel. Alors, si vous voulez, par exemple, vous retrouver en pratique du droit familial avec une clientèle X, bien, projetez-vous dans la future carrière, puis évaluez tout ce qui vous définit. Et l'impact que vous avez actuellement sur les gens qui vous entourent sera assurément là, là dans votre intégration professionnelle. Alors, misez sur ces atouts-là de personnalité. Moi, souvent, là, ce que je donne comme référentiel, là, c'est quand vous décidez de changer votre photo, là, votre selfie sur vos réseaux sociaux, là, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous en prenez plusieurs, là, puis à un moment donné, vous faites le choix d'en prendre une. Pourquoi? Parce que vous vous ressemblez, parce que vous vous appréciez dans cette photo-là, parce qu'elle vous ressemble beaucoup au moment où vous la choisissez. Bien, le texte de votre lettre de présentation, dites-vous que c'est comme le selfie que vous choisissez pour vos réseaux sociaux. Quand vous le lisez, là, il faut vraiment que vous ressentiez à l'intérieur de vous que ce qui est écrit, c'est vraiment vous. Donc, c'est la façon de vous dévoiler, c'est la façon de vous présenter au monde puis de donner accès à vous. C'est le meilleur exemple que je pourrais pas vous donner par rapport à la rédaction qui est importante à faire en ce sens-là. Et ayez surtout pas peur de vous vanter. Là, je vous entends me dire « Ouais, mais tu sais, Dominique, je le sais que je suis bonne dans ça, puis dans ça, puis dans ça. Mais tu sais, je peux-tu vraiment écrire ça? » La réponse, c'est oui. La vantardise, là, c'est dans l'exagération du propos. Mais si vous êtes dans un propos qui est affirmé, avec des mots-clés qui sont clairs, on va plutôt apprendre à vous connaître. La ligne est mince, mais c'est vraiment ça la différence entre les deux. Alors, je sais que vous êtes tous et toutes très humbles. Alors, messieurs, mesdames, osez vous affirmer. La vantardise, elle se verra peut-être plutôt dans votre attitude en entrevue, plutôt que dans la rédaction, hein?
OK. Bon, on peut passer maintenant au CV, qui est peut-être justement la partie un peu moins, j'ai le goût de dire créative, mais peut-être que tu vas me dire le contraire, mais j'ai l'impression que la lettre de présentation, c'est là qu'on peut justement montrer plus notre personnalité, tandis que le CV, c'est comme très, tu sais, des petits points, puis c'est comme...
C'est plus technique.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est plus télégraphique.
Oui, c'est ça.
C'est exactement ça. En fait, dans la lettre de présentation, là, c'est un peu comme si vous parlez à l'employeur de ce que vous souhaitez. Et c'est une synthèse de la rédaction très télégraphique, biographique et chronologique de votre CV. Puis même, j'ajoute là, parce qu'il y a une petite information que j'ai pas partagée sur le contenu de la lettre, je vais me permettre de revenir un petit peu sur le propos. C'est juste en termes de dites-le à l'employeur pourquoi vous voulez travailler pour lui. Pourquoi le ministère de la Justice, c'est votre cible? Dites-leur ce qui vous intéresse chez eux. Fait que les lettres, là, au fond, elles vont toujours être les mêmes, à l'exception de la partie où vous parlez de pourquoi l'employeur m'intéresse. C'est le petit bout où vous tenez un propos plus parlé, plus verbal. On y met plus notre touche de couleur personnelle quand même, sans qu'il y ait un excès de créativité. C'est là où on sort un petit peu du lot par nos habiletés rédactionnelles. La lettre, c'est ça. Le CV, là, c'est un autre exercice. C'est l'exercice du timeline de vie. Hein, je me permets un anglicisme, mais on comprend ce que ça veut dire. L'idée, là, pour que vous puissiez concevoir un CV qui est attendu par le marché du travail, là, c'est que je vous invite à revoir le film de votre vie. Puis vous allez reculer jusqu'où? Jusqu'à l'âge de 5 ans. Puis là, vous allez me dire, « Hey, Dominique, voyons, 5 ans, je ne me rappelle pas de ce que je faisais. » Bien, oui, rappelez-vous de votre enfance. Vous venez d'où? Venez-vous de Québec? Venez-vous d'ailleurs? Et là, l'exercice du timeline de vie, c'est de revoir la séquence de tout ce qui vous est arrivé. Et ensuite, on part dans la rédaction officielle.
Parfait. Dominique, moi, je commencerai avec quoi ne pas faire? En gros, rouge, là, on met ça ici, tout le monde. Quoi ne pas faire? Faites pas ça, c'est ne pas faire.
Ah oui, il y a des highlights. T'as tout à fait raison. Moi, j'ai le goût de vous dire, là, faites attention à ce que vous allez trouver comme conseil sur Internet. Parce que les références que vous allez lire sont bonnes. Tous les conseils que vous allez trouver sont bons, mais ils viennent-tu du Québec ou ils viennent de la France, par exemple? Et là, il y a une importante différence parce que les CV en Europe, là, ils incluent des critères qui sont discriminatoires ici au Québec.
Comme la photo,
exact, l'âge. Exact, les allégeances politiques, les affiliations religieuses, le statut matrimonial, est-ce que vous avez des enfants ou non. Donc, ce qui est attendu dans des CV ailleurs, dans le monde, c'est vraiment un no-go.
Ici. Okay.
Fait que les highlights, c'est vraiment à ne pas faire, c'est absolument ceux-là. Mais je vous dirais, est-ce qu'on peut mettre de la couleur? Est-ce qu'on peut aller dans l'infographie? Est-ce qu'on peut... Attention, je ne vous dis pas que je n'aime pas les dossiers de candidature et que, là, je parle en jeu, mais je vais parler aussi au nom du marché du travail. Ce n'est pas que les outils innovants sont pas intéressants, mais ce que vous allez beaucoup voir qui est très populaire, c'est des one-pagers, entre autres sur Canva, avec beaucoup de couleurs. Et un one-pager, c'est tellement synthétisé que ça évite à l'employeur beaucoup de contenu accessible sur votre histoire. Puis moi, je vous le dis, là, en droit, on veut savoir à peu près tout de votre parcours de vie. Alors, gardez à nouveau la méthode traditionnelle du CV noir sur blanc, puis évitez aussi les abréviations. S'il vous plaît, écrivez au long tout ce que vous voulez dire. On ne peut pas penser qu'un employeur connaît le jargon universitaire avec ses abréviations. Ça, c'est un important conseil aussi.
Puis là, tu parlais pas de one-pager. Mmh. Donc, ça veut dire que notre CV, contrairement à notre tête de présentation, peut être plus qu'une page. Est-ce qu'il y a un nombre de pages maximum, minimum?
Moi, je vous dirais, d'habitude, là, quand on est rendu à l'université, on a un 2 pages au moins. On a un 2 pages okay. au moins à remplir. Est-ce que c'est un no-go d'aller sur la 3e page? Bien, absolument pas. Là, ce qu'il faut vérifier avec vous, c'est combien d'expériences de travail vous avez. Puis moi, je vous le dis, là, il ne faut rien supprimer. Alors, toutes vos expériences de vie professionnelle et toutes vos expériences de bénévolat, depuis le tout début. Ce qui fait que souvent, on va dire, ben, est-ce que je supprime ma première job dans le casse-croûte du coin de la rue quand j'avais 15 ans? T'sais, c'est pas vraiment lié au droit, cette expérience de travail-là. Non, 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 non. C'est super important de faire honneur à tous les employeurs qui vous ont donné votre première chance. Puis savez-vous quoi? Les avocats, là, tout comme vous et moi, là, ils ont commencé par ces emplois-là. Hein?
Ben, on c'est dur de se penser des fois, mais c'est vrai.
Ben oui, souvent, on a l'impression là, qu'il faut les mettre sur des piédestals puis que ces gens-là, oh, c'est sûrement eux qui ont eu les plus grosses jobs et tout, mais pas nécessairement. Il faut leur montrer qu'on a la même histoire de vie qu'eux autres, en fait.
Parce qu'on dirait que j'ai de la misère à me dire à quel point que les employeurs veulent, les professionnels veulent savoir qu'à 14 ans, je travaille dans un Tim Hortons, que je travaille dans un cinéma à 15, dans un salon de bronzage à 18. J'ai de la misère à avoir un peu la pertinence de ça. Fait que on est moins porté, je pense. Je pense qu'on est porté à éliminer tout ça, se faire de la place pour le reste, pour que le reste brille plus. Mais ce que tu dis, c'est qu'il faut être fier de ce qu'on a déjà été.
Bien, tu pourrais me poser la question, Dominique, les employeurs veulent-tu vraiment voir ça? Puis je te dirais oui. Parce que c'est pas la nature de la tâche qui est importante, c'est le développement de compétences que vous y avez fait. Si vous oubliez de mettre ou si vous omettez de mettre ces informations-là, bien moi, je vais vous le dire entre guillemets, là, tout ce qui n'est pas sur le CV, bien les employeurs vont penser pendant ce temps-là que vous écoutiez des séries puis des films sur Netflix. Et on se comprend que ce n'était pas le cas. Hein? Si je reprends ton exemple de Tim Hortons, là, et on va pas se le cacher, là, de servir le café là, au service à l'auto là, le matin à 6h15, quand il y a un line-up de 15 voitures, là, on s'entend-tu que le niveau communicationnel de politesse, l'assiduité, la rapidité d'exécution, c'est-tu pas toutes des compétences professionnelles qui sont transférables éventuellement dans le marché du travail? Bien, la réponse, c'est oui. C'est la raison pour laquelle ces expériences-là sont prioritaires.
Puis avant qu'on passe avec les différentes catégories, sections de CV, là, j'aimerais qu'on parle des autres formalités à respecter pour le CV, plus général, qui s'appliquerait pour tout le CV au complet.
Oui, bien écoutez, noir sur blanc. Hein, okay. Noir sur blanc. Si vous prenez de la couleur, prenez de la couleur foncée et faites un test d'impression avant de l'envoyer parce qu'il y a des recruteurs qui travaillent encore avec les copies papier et quand on prend de la couleur trop pâle, ça disparaît à l'impression. Hein? Donc, restez dans le trait traditionnel.
Noir et blanc, on se trompe pas.
On peut s'amuser puis ne pas travailler en Times New Roman 12. Là, on peut être funky. On pourrait aller en Calibri 11, par exemple. Oui, je vous dirais, dans un caractère 10.5, 11, 11.5, ça va. Faites des interlignes simples, des interlignes 1.15, des interlignes doubles. Vous allez perdre beaucoup d'espace dans votre document pour rien. Ça va espacer le texte pour rien. Puis, allez-y aussi dans une écriture à l'infinitif. Mettez des verbes d'action à l'infinitif. Pas faire de phrases trop longues, complètes. Straight to the point. Un discours direct qui parle et qui est révélateur. C'est les deux vraiment essentiels que je vous dirais.
Parfait.
Donc, merci, puis on va aller à la pause et on vous revient bientôt. Donc, on est de retour à Droit de parole avec Élodie et Dominique et on va continuer à parler du CV et plus précisément les différentes catégories ou les différentes sections qu'on peut mettre dans un CV.
C'est ça, Dominique. Moi, là, ma question, là, je suis une fille qui aime ça quand c'est technique, que c'est clair. Je commence par quoi, je finis par quoi? C'est quoi la meilleure structure à avoir dans un CV?
Puis là, on évite l'originalité, on suit le processus. On suit la procédure. Est-ce que ça veut dire, ouais, mais Dominique, on va tout avoir un CV pareil? La réponse, c'est oui. Puis savez-vous pourquoi ça doit être oui? C'est qu'un employeur, là, qui a des dizaines et des dizaines de CV à lire, là, il ne veut pas la chercher. L'information. Quand on dit là, que ça prend 10 à 12 secondes, là, lire un CV là, en première lecture, bien, c'est parce qu'on respecte l'ordre de l'information qu'on présente. Alors, au tout début, vos coordonnées. Ensuite, si vous êtes une personne qui maîtrise plusieurs langues, déjà là, en haut du CV, on va les présenter. Vos études, vos bourses et distinctions. Les expériences de travail pertinentes que vous avez eues, on pourrait même appeler ça les expériences pertinentes en droit, si vous en avez. Ensuite, on va sortir du lot vos autres expériences de travail. On va suivre avec vos implications dans l'académique et vos engagements sociaux. Et à la toute fin, si vous avez envie d'un petit partage plus personnel, on réserve une section qu'on appelle les activités, les passions, les loisirs, les sports.
OK.
Alors, si on reprend au niveau des sections,
c'est ça, j'aimerais ça qu'on m'explique là, plus précisément chacune de ces petites sections-là pour être sûr d'avoir la bonne information.
Oui, bien, en fait, les coordonnées, c'est simple. Hein? Si, par exemple, vous êtes un étudiant qui veut travailler à la fois à Québec et à Montréal et que vous avez deux pieds à terre, mettez votre adresse à Montréal quand vous déposez un CV à Montréal, puis mettez votre adresse à Québec quand vous déposez à Québec. Si vous avez juste un pied à terre, vous gardez la même adresse.
Donc, on met l'adresse.
Vous pouvez la mettre, oui. Elle n'est pas obligatoire.
Okay.
Donc, surtout quand on veut aller dans une autre région, ça peut être un avantage de le dire qu'on a un pied à terre dans la région de l'employeur. Et pour ceux qui ont un profil LinkedIn, moi, je recommande d'ajouter le URL de votre profil LinkedIn juste en dessous de la section de vos coordonnées. Ça va piquer la curiosité des employeurs. Ils vont cliquer dessus puis ils vont aller voir. Ils vont aller voir votre visibilité, votre profil sur les réseaux sociaux.
C'est une bonne idée. Puis tantôt, on va parler aussi plus en détail là, du profil LinkedIn.
Ouais.
Fait que...
Restez à l'écoute.
C'est ça.
Restez avec
Partez
nous.
Pas tout de suite.
La maîtrise des langues, ben pourquoi? C'est pas si commun que ça, hein, que des étudiants maîtrisent dans une compétence professionnelle les langues. Fait que si c'est votre cas, puis là, je comprends, nous, on est à Québec, hein, vous avez fait votre bac en français, fait que je le sais, là, que le jargon juridique, vous ne l'avez pas tout, mais si vous vous dites, moi, j'entre au bureau, puis je suis en mesure d'accompagner un client dans une deuxième langue, voire même dans une troisième langue, vous l'écrivez en haut. Ensuite, bien là, on irait avec la section des études, qui est assurément très, très importante.
Oui. Là, on y va du plus récent au plus ancien.
Exact. C'est ce qu'on appelle une chronologie inversée.
OK. Puis, la chronologie inversée, on l'utilise dans toutes les catégories. C'est ça, quand on avait discuté, là, c'est ça que tu m'avais dit. J'ai bien compris.
Oui, absolument. Donc, on commence toujours par le plus récent et on va jusqu'au plus ancien.
Parfait. Puis, quand on dit jusqu'au plus ancien, là, est-ce que je mets mon école primaire, mon école secondaire, mon cégep?
Celle qui n'est pas là, c'est sûr, c'est la maternelle puis le primaire.
OK, je vais essayer de me rappeler de
ça. On les met pas. Le secondaire, savez-vous quoi? Moi, j'aime bien mettre les études secondaires, principalement si vous avez un parcours particulier en termes de développement de compétences. Parcours particulier, ça veut dire quoi? Anglais intensif, sport-études, il y en a que c'est hors-études, il y en a que c'est le PEI. Alors, ces programmes-là démontrent un développement de compétences différent. Alors oui, vous pourriez reculer jusqu'aux études secondaires dans cette situation-là.
Puis moi, là, j'ai une question. Mettons, je prends mon exemple à moi. Moi, j'ai été en sport-études, justement. Mais à partir de la cinquième année du primaire.
Mmh.
Fait que là, est-ce que je mets quand même mon secondaire, puis là, dans l'entrevue, je vais te dire, mais tu sais, en réalité, je l'ai fait pendant 7 ans, mon sport-études, et non pas 5?
Oui, exact. Ça devient okay. Un argument lors de la rencontre, effectivement.
Okay. Parfait.
Puis là, tu sais, moi, Andréane, puis tous les étudiants du bac, on est au bac, on n'a pas notre certificat, on n'a pas notre diplôme. Comment qu'on l'écrit dans notre CV? C'est quoi la différence quand on a notre diplôme puis on n'a pas notre diplôme? Il y a une façon différente de l'écrire, hein?
Oui, absolument. En fait, parce que vous êtes en cours d'études actuellement et que vous n'avez pas décidé d'abandonner le parcours, vous allez écrire baccalauréat en droit avec l'Université Laval, mais au niveau de la date, vous allez écrire obtention prévue 2023, 2024, 2025. Donc, on va projeter que pour l'instant, vous êtes dans le bac et que le diplôme s'en vient. Si avant le bac en droit, vous avez commencé un autre bac dans une autre concentration puis que vous ne l'avez pas fini, c'est là où on va changer la terminologie. Si, par exemple, vous avez commencé un parcours en sciences politiques au bac, mais que vous ne l'avez pas fini, vous allez écrire « études au baccalauréat en sciences politiques de telle année à telle année ». C'est ça la petite distinction à faire dans la présentation du parcours.
OK.
Ensuite, ben après les études, on va s'assurer que là où vous avez rayonné, hein, là où vous avez brillé là, dans votre vie, on va le souligner. Alors, vous allez reculer ici là, jusqu'au secondaire quand on parle des bourses et distinctions. Okay. Là, il y en a qui vont me dire, ben là, Dominique, moi, j'ai eu un méritage de persévérance scolaire en secondaire 1, je le mets dessus. Là, je vous dirais ici, on va faire la règle du gros bon sens. Hein? Si vous avez eu là, la meilleure moyenne de toute votre année en secondaire 5, ça, c'est intéressant. Si vous avez eu la reconnaissance de l'athlète de votre école secondaire, bien, ça, c'est intéressant. Si vous avez eu la médaille du gouverneur général, c'est intéressant. Et ainsi de suite. Après ça, bien, toutes les bourses, toutes les distinctions que vous avez eues depuis que vous êtes à l'université sont importantes. Mais pourquoi je vous dirais, des fois, on va reculer jusqu'au secondaire? C'est parce qu'on dirait que la zone de flou, c'est le cégep. Il n'y a pas grand-chose hein, qui se passe en termes de distinction et de mérite.
C'est vraiment rapide, le cégep. Si tu rentres, tu sors, c'est comme ça prend 2 ans, c'est fini.
Oui, oui. Fait que les gens là, qui me disent « Ouais, Dominique, c'est en secondaire 5. » Oui, mais c'est quand même une distinction mm-hmm. que tu as eue à 15-16 ans. C'est ça là, qu'il faut que vous vous rappeliez qui est important. Alors, on va y aller là. Après les bourses et distinctions, ce qu'on appellerait les expériences de travail pertinentes ou les expériences pertinentes en droit.
Est-ce que tu aurais quelques exemples pour nous, Dominique, des expériences de travail? Est-ce que ça inclut, par exemple, moi, j'ai fait une recherche dirigée dans un tel sujet, fait que j'ai passé des nombreuses heures à lire sur un sujet en particulier. Est-ce que ça peut être pertinent de le mettre là? Parce que moi, personnellement, j'ai jamais travaillé. Mon emploi étudiant, ça n'a pas été dans le domaine du droit. Là. Je travaille dans la restauration et tout ça. Fait que c'est pas pertinent pour moi qui me cherche un stage en droit, je dirais. Là. Pertinent pour d'autres aspects. Là, mais...
Oui, oui. Dans cette section-là, que vous ayez été rémunéré ou non, c'est pas ça là,
okay.
Le facteur de choix. C'est la nature de la tâche et la responsabilité que vous avez eue. Et surtout, si vous en avez pas beaucoup. Alors, quelqu'un, pour prendre ton exemple de lecture... on dit une recherche dirigée, pardon, et qu'il n'y a pas d'autre emploi, je vous dirais, oui, on va placer ça dans expérience professionnelle. Pourquoi? Parce que tout premier emploi en droit ou tout stage en droit va vous faire faire de la recherche. Donc, c'est officiel que les compétences sont transférables. Après ça, ben, un emploi pertinent, ça peut être un emploi d'étudiant à la fonction publique ou est-ce que vous faites des tâches administratives de bureau ou est-ce que toutes les compétences sont transférables. Donc, quelqu'un qui est actuellement au tribunal administratif comme étudiant ou quelqu'un qui a fait un stage crédité à la cour d'appel pendant son parcours académique, il a passé une journée par semaine à cour d'appel, bien, c'est une expérience professionnelle. Ça. Alors, oui, ces expériences-là, on pourrait les mettre dans expériences de travail pertinentes.
Fait que le « de travail » est en guillemets, là. T'sais, c'est « de travail », pas nécessairement « j'ai reçu ma paye », puis...
Oui, exact. Okay. Ça veut pas dire « rémunération ».
Et « pertinente », c'est selon le domaine.
Exact.
Okay, parfait.
Et le niveau de responsabilité surtout. Oui.
OK.
Dans les autres expériences hein, de travail, là, on parlait tantôt de tout ce que vous avez pu faire depuis que vous avez... 15 ans, hein, il y a une distinction dans le fond à faire entre les deux. C'est tous les boulots étudiants rémunérés. Alors là, ici, il va y avoir une condition, c'est tous les boulots pour lesquels vous avez reçu un salaire depuis le tout début. Ce qu'on ne mettra pas, là, c'est le gardiennage d'enfants, distribuer les journaux le matin. Mais après ça, tout ce qui est en lien avec un employeur, vous allez le mettre, mais on ne définira pas vos tâches. On s'entend, hein, servir des cornets de crème glacée dans une crèmerie, on le sait, c'est quoi. Donc là, vous allez juste écrire votre titre d'emploi, le nom de l'employeur, puis les années où vous avez fait, ça. Et là, c'est très, très proche, tout ça, d'une autre section que moi, je vous recommande de créer, qu'on appelle les implications académiques. Vous le savez, à la faculté de droit, vous avez de nombreuses occasions de vous impliquer. Vous avez siégé sur un comité, vous êtes sur l'association étudiante, vous avez fait des concours de plaidoirie, des débats oratoires, des concours de débats face à face. Tout ce que vous avez mis en pratique dans le cadre de ce que la faculté vous a permis d'essayer comme expérience, ça entre dans l'implication étudiante. Et il faut que vous écriviez ce pourquoi vous avez eu des responsabilités. Attention ici, là, parce que tout ce qui est sur votre CV, les employeurs vont vous poser des questions. Fait qu'il faut faire attention à ne pas exagérer le niveau de responsabilité d'une expérience, parce qu'il va falloir que vous soyez capable d'expliquer ce que vous avez fait en entrevue. Alors, bien détailler ces implications-là. Implication académique, ça ressemble des fois à engagement social. L'engagement social, hein, c'est ce qu'on appelait avant le bénévolat. Donc, on a fait évoluer la terminologie.
Parfait. Moi, une petite question. En tant que présidente du BIJ, c'est sûr que je me dis le BIJ, c'est un OBNL, mais... C'est les membres bénévoles, c'est des étudiants en droit qui font ça au cours de leurs études. Est-ce qu'on est mieux de le mettre, par exemple, comme engagement social ou comme implication académique? Ben, je sais qu'il y en a beaucoup, on a environ une cinquantaine d'étudiants par session qui s'inscrivent. Il y en a beaucoup qui vont vouloir le mettre sur leur CV, je pense.
Oh, c'est sûr! Implication académique, sans aucun doute.
OK, parfait.
Tout ce que vous avez fait dans le cadre de l'université, là, dites-vous que c'est dans implication académique. L'engagement social, ça va tout... dans les organisations communautaires qui sont en dehors du campus. C'est souvent ça, dans le fond, la différence pour vous aider à choisir où vous mettez votre information. Puis la dernière petite section, c'est les activités. Si, par exemple, vous avez fait beaucoup de sport dans votre vie, beaucoup de compétitions, vous jouez du piano depuis que vous avez 5 ans, vous avez fait des concerts de musique, peu importe, tout ce que vous allez avoir le goût de dire de ce qui a occupé les minutes de votre vie depuis que vous êtes très jeune, ça s'en va là. Donc, c'est pas compliqué, il n'y a pas de jugement là-dedans. Puis souvent, on dit, hey, là, Dominique, ça s'en va vraiment, vraiment, vraiment dans le personnel. Là. Est-ce qu'il faut vraiment que je fasse cette section-là? Bien, dites-vous que si vous êtes un amateur de faire de la cuisine asiatique à la maison, bien, tout le monde va vouloir que vous parliez de ça. Puis quand vous parlez d'intérêt personnel, vous êtes vous-même puis vous êtes authentique. Fait que oui, c'est intéressant d'utiliser cette section-là pour ça, effectivement.
Pour clore un peu le sujet du CV, de lettre de présentation, là, moi, j'ai l'impression de me répéter un peu mon CV dans ma lettre de présentation. C'est quoi la plus importante différence entre un CV puis une lettre de présentation?
Bien, en fait, là, le CV, c'est votre biographie en ordre chronologique. C'est une suite de faits avec les années. Tandis que la lettre, c'est comment vous voulez donner accès à vos forces de personnalité puis à qui vous êtes comme individu. C'est vraiment la façon dont je pourrais vous partager, départager un peu les deux, là.
Super. Mon Dieu, excusez. Donc là, on irait avec les différents outils qui sont disponibles pour les étudiants, que ce soit le réseautage ou encore le fameux LinkedIn là, qu'on a parlé tantôt, parce que justement, pour les gens qui ont fait leur préparation pour la course au stage, puis même sans l'avoir fait, là, je pense qu'on l'a vu sur Droit et Laval, là, les activités de réseautage débordaient dans les dernières semaines. Il y en avait à tous les jours, les 5 à 7, les cocktails. Il y en a vraiment de tous les genres. Donc, on peut peut-être commencer là, avec les activités de réseautage. Donc, un peu comment ça se passe, comment nous, on devrait agir pendant ces activités-là.
Oui, effectivement. Bien, c'est tellement bon pour la recherche d'emploi parce que ça nous apprend à donner accès à nous. Moi, je trouve que le réseautage, là, c'est une des principales stratégies d'intégration professionnelle parce que c'est le début de l'établissement d'un climat de confiance entre vous et le marché du travail. Fait que ce qui est important de retenir, c'est que quand vous allez dans ces activités-là, l'important, c'est que vous puissiez donner accès à vous en vous présentant à des gens que vous ne connaissez pas. oser aller vers des professionnels d'expertise, puis découvrir avec eux, en discutant avec eux, leur milieu. C'est d'arriver à poser des bonnes questions, en fait, les activités de réseautage, en disant, par exemple, bien, écoutez, pouvez-vous me parler de votre environnement de travail ou de votre culture organisationnelle? Pourriez-vous m'expliquer votre mandat? Donc, l'idée, c'est de comprendre le métier aussi qui est exercé par quelqu'un qui est dans une entreprise qui nous intéresse. Et le recrutement, je vais vous le dire, là, ce n'est plus un secret, ce sont des activités de pré-recrutement. Alors, quand on dit « Ah, c'est le fun, la faculté est très vivante, puis on a plein de soirées sociales et tout, puis on y va pour discuter », oui, mais dites-vous qu'on retient toujours comment on s'est senti en votre présence en fonction de ce que vous nous avez dit. Alors, gardez toujours en tête qu'il faut que vous alliez dire là ce que vous voulez comme objectif.
Puis, est-ce que tu considères que ces activités-là sont un peu obligatoires pour nous préparer, bien, pas obligatoires, mais je vais utiliser ce mot-là quand même, pour nous préparer à notre vie professionnelle, nous préparer à nos entrevues, stages, etc. Puis, est-ce que c'est pertinent de s'investir dans la vie étudiante, même si on ne fait pas partie d'un comité?
Ce n'est pas obligatoire, c'est pertinent. Je vais utiliser les mots.
Les mêmes mots que j'ai utilisés.
De tes deux questions, oui, absolument. Parce que, en fait, l'idée, là, c'est de vous mettre dans l'action puis de vous mettre en pratique. Fait que oser, pendant que vous êtes dans l'académique, parler à des gens du milieu en avance, c'est vraiment une bonne idée. Puis de s'impliquer, ça vous fait connaître des nouvelles personnes, ça vous fait établir des nouvelles collaborations avec d'autres personnes, puis ça vous fait développer des compétences dans des engagements où vous n'êtes pas nécessairement dans un boulot 8 à 5 du lundi au vendredi. Alors, organiser des événements, faire des invitations à des conférences, tisser des liens avec des partenaires du milieu, c'est très, très formateur. Pour votre préparation à l'intégration en emploi. Alors, non obligatoire, mais très pertinent.
Conseillé. Exact. Fortement conseillé. Ensuite, est-ce que ce serait possible pour toi de me dire c'est quoi LinkedIn puis à quoi ça sert?
Ah oui. De un, c'est pas un nouvel outil, hein? Je vous le dis, cet outil-là, ça fait des années que ça existe, mais LinkedIn, c'est un réseau, c'est une plateforme de réseautage professionnel. Vous avez un Instagram, vous avez un Facebook et autres que je ne connais peut-être pas moi-même, mais le LinkedIn, c'est le réseautage professionnel par excellence. Moi, je vous recommande au minimum de créer votre profil. Hein, avoir une page sur LinkedIn, c'est un profil professionnel.
Comme pour dire, on est là, là. T'sais, si le recruteur nous cherche, ben, il va au moins nous trouver, il va savoir ce qu'on a de scolarité,
oui,
puis c'est ça.
Exact. LinkedIn, dites-vous que c'est une base de données de contact. C'est la meilleure chose que je pourrais vous dire par rapport à ça. Les gens, s'ils vous rencontrent dans une activité de réseautage, là, ils vont vous chercher avec le nom que vous avez dit. Votre nom, votre prénom, votre nom de famille, ils vont vous chercher avec ça. Donc, vous créez un profil bien simplement. Hein. Première étape, c'est vraiment ça. Vous prenez votre CV. On a parlé du CV tantôt, là. Vous prenez le CV que vous avez fait, vous prenez l'essentiel de votre dossier de candidature et vous copiez-collez l'information dans la plateforme parce que, dans le fond, vous pouvez pas être créatif sur LinkedIn. On vous impose des catégories de présentation de vous-même. Alors, vous allez copier principalement votre baccalauréat actuel en droit, les principales implications académiques que vous avez, au moins une expérience pertinente, sinon la plus récente. Même si c'est dans un restaurant, si c'est ce que vous faites à l'heure actuelle, je veux voir quand même que vous travaillez. Un essentiel, la photo. On a dit tantôt, pas de photo sur le CV, mais là, on est sur un site de réseautage. Une belle photo, ça peut être un selfie que vous prenez avec votre cellulaire. Là, hein? On ne se casse pas la tête, on n'est pas obligé de se payer un photographe professionnel pour ça. Une belle photo, regard vers l'avant, un beau sourire et un titre révélateur. Le titre, c'est quoi? C'est ce qui se retrouve en dessous de votre nom. Quand vous ouvrez votre profil, vous avez votre photo, votre nom, en dessous, c'est un titre. On écrirait principalement en ce qui vous concerne. Étudiant en droit. Puis là, vous pourriez faire un slash parce qu'il y a un nombre de caractères définis où vous pouvez écrire plusieurs choses dans votre titre. Mais vous pourriez, par exemple, ensuite écrire aspirant avocat en droit des affaires, si vous savez déjà ce que vous voulez faire. Mais le principal, ce serait étudiant en droit. On n'écrit surtout pas un titre du genre en recherche de stage. Parce que vous comprendrez bien qu'il n'y a personne sur la plateforme LinkedIn qui va chercher at large quelqu'un qui est en recherche d'emploi. Donc, il faut y aller de façon très spécifique. Mais je vous le dis, là, c'est l'outil que les employeurs utilisent le plus pour chercher des candidats. Et dès qu'on a des CV dans les mains, la curiosité nous emporte et on s'assure de voir si vous êtes sur les réseaux sociaux.
Justement, pendant sur LinkedIn, on voit qui a recherché notre profil.
Oui!
On voit 8 personnes ont cherché votre profil cette semaine, 10 personnes. Puis je pense qu'avec le recrutement qui s'en vient, ça va pas
pire. Ben oui! On voit comme de qui, mettons, 3 personnes chez Cabinet X aussi. Là. On voit comme les entreprises qui t'ont le plus cherché.
C'est quand même intéressant pour nous aussi, après, de voir, hey, crime, ils savent chez qui ils m'ont cherché, ils ont parlé de moi ou peu importe.
Mais ça montre à quel point, je vous disais tantôt, c'est pertinent d'aller dans les activités réseautage. Ouais. Regardez ce que ça vous a fait vivre après. Oh, tel avocat m'a cherché sur LinkedIn. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était à l'écoute de ce que vous nous avez dit. Ça veut dire qu'on est en activité pré-recrutement, comme on disait tantôt, parce que là, de ce qu'on s'est dit en cocktail. On va aller vérifier maintenant le contenu du profil de la personne. Ça ressemble à quoi?
C'est comme un CV qu'on n'a pas envoyé dans le fond. Fait qu'eux sont intéressés à savoir qu'est-ce qu'on a fait avant, qu'est-ce qu'on fait. Puis...
C'est le plus beau lien qu'on pourrait pas faire. Et le dit, c'est exactement ça. Ça donne accès à de l'information technique à propos de laquelle on parle pas quand on est en activité réseautage nécessairement. Ou ça nous permet de la retrouver. On peut en avoir parlé, mais l'avoir oublié. Donc, on la retrouve sur cette plateforme-là. Alors, c'est sûr que du moment où vous êtes là, vous l'avez vécu. C'est la deuxième étape que vous venez de me présenter. C'est super intéressant. C'est, hey, ça nous permet de développer notre réseau. Oui. Alors, entrer en contact avec des gens, ça veut dire, ah, ben telle personne est venue voir mon profil, je pourrais y faire une invitation. Puis, ah, c'est telle personne de tel bureau. Ah, ben là, sur LinkedIn, il faut que vous sachiez aussi que les gens ont une page professionnelle, mais les entreprises ont une page aussi. Fait que si vous commencez à être intéressé par un bureau puis vous voulez en savoir plus sur eux, le contenu des nouvelles de leur page LinkedIn est vraiment intéressant. Parce qu'on vous pousse de l'information sur ce qu'on fait quotidiennement, les événements où on va, les choses qu'on veut promouvoir. Donc, ça peut vous aider à recueillir énormément d'informations pour vos recherches d'emploi.
Puis, est-ce que c'est nécessaire de publier sur LinkedIn pour paraître dans des recherches, peu importe?
Après ma part, je vous dirais non. Moi, ce que j'aime plutôt faire, c'est encourager les autres en likant, par exemple. J'ai trouvé mon stage de la formation professionnelle, je serai une étudiante chez Cabinet XY, par exemple, ben likez la publication, félicitez la personne. Juste ça va vous rendre visible sur les réseaux. Éventuellement, quand vous serez stagiaire ou en première expérience de travail, commencez à publier des informations sur ce que vous travaillez. Ça deviendra intéressant dans un avenir rapproché.
OK.
Donc maintenant, on va y aller pour le dernier moment et non le moindre, qui est l'entrevue. Donc là, c'est une fois que, justement, là, notre beau CV a été retenu, on a fait toutes nos activités de réseautage, puis là, la personne nous dit « Parfait, je veux te passer en entrevue. »
Le moment qu'on attend.
Oui!
Est-ce que tu aurais quelques techniques d'entrevue à nous proposer, Dominique?
Oh, j'en ai tout plein. J'en doute pas. On pourrait en parler des heures. Mais aujourd'hui, on focus sur l'essentiel, OK? Alors, de un, là, se centrer sur vous-même. Ça ne veut pas nécessairement dire vous programmer une séance d'introspection méditative avec une petite tisane puis un moment là, de réflexion existentielle, mais c'est vraiment proche. Fait que je vous le dis en riant, mais c'est vraiment proche parce que se centrer sur vous, là, ça veut dire être conscient de la belle personne que vous êtes dans son ensemble. Vous êtes unique. Et c'est là où de prendre le temps d'aller connecter avec vous-même puis de trouver les mots pour pouvoir vous décrire, ça va vous éviter une chose. Tout le monde va vous dire « Prépare-toi pas trop parce que ça va avoir l'air appris par cœur. Go pour l'improvisation. » Oh! Non! Non. Si vous avez déjà des éléments dans votre tête, face à des questions inattendues, vous allez avoir des repères de réponses, sans que ce soit du texte tout appris par cœur, mais au moins une première réflexion que je vous dirais de mettre en bilan écrit.
Parfait. Donc, tu conseilles de vraiment se pratiquer, se préparer à l'avance. Puis comment qu'on fait ça?
Oui, absolument. Retenez là que une entrevue là, ils peuvent être plusieurs personnes. Hein? Ils peuvent être 1, 2, 3 personnes. Vous avez aucune idée de ce qui vous attend. Donc moi, il y a 3 thèmes sur lesquels je veux que vous centriez puis que vous travailliez à réfléchir, c'est la connaissance de vous, la connaissance du poste. Avez-vous une idée du mandat qu'on vous propose? Puis la connaissance de l'entreprise, au minimum, c'est quoi la mission du bureau? C'est quoi leur valeur? C'est quoi leur domaine de pratique? Puis quel client ils desservent? Fait que ça, là, il faut être en bonne possession de ces informations-là. Puis je vous fais un lien dans le guide carrière en droit de l'Université Laval qui est disponible sur Internet. Vous avez des questions préparatoires à toutes ces sections-là que je viens de vous énumérer. Alors, ça serait une bonne façon d'aller vous préparer, tout à fait. Puis les mises en situation, attendez-vous à... On va vous mettre dans un contexte X, puis on va juste vouloir savoir comment vous réagissez. Fait que ça, fiez-vous à votre belle intelligence, votre façon de fonctionner dans la vie. Vous allez très, très bien vous en sortir. Là où les étudiants s'inquiètent un peu, c'est les questions de droit. Oh my God! Si on me pose des questions en droit puis que je m'en souviens plus, qu'est-ce que je fais? De un, retenez que c'est vraiment rare. Il n'y a vraiment pas beaucoup de bureaux qui le font, mais quand ils le font, c'est pour évaluer ce dont vous vous souvenez, mais surtout, si vous n'avez pas la vraie réponse à la question, qu'est-ce que vous allez leur dire en termes de « comment je ferais pour trouver la réponse à la question si, au bureau, j'étais face à un besoin d'information en ce sens-là? » Alors, trois points principaux, connaissance de soi, connaissance de l'entreprise, potentiellement connaissance du poste, peut-être des petites mises en situation, c'est vraiment vos essentiels.
Est-ce que tu aurais d'autres petits trucs, d'autres petites techniques de préparation d'entrevue, là, des petits cues, là, de quelqu'un qui connaît bien ça? Là?
Vous allez trouver ça bien, bien comique. Moi, je vais vous prescrire un exercice. Je vous prescris une rencontre entre vous et vous-même, dans un but, vous parlez à voix haute, tout seul.
Assez spécial quand même, on dirait, faut être à l'aise.
Exactement. Mais savez-vous quoi? Là où les gens bloquent à l'entrevue, là, c'est pas parce qu'on vous pose des questions difficiles. Toutes les questions sont d'une simplicité. Écoutez les questions, il y a toujours un thème qui va être en lien avec les trois objectifs de travail que je vous ai donnés tantôt. Vous allez toujours être capable de répondre. Là où on bloque, c'est qu'on parle jamais de nous autres. Quand est-ce, les filles, que ça vous est arrivé, là, un samedi soir en famille, là, qu'on dise « Bon, ce soir, le sujet du jour, c'est Andrea! » On fait jamais ça, ni entre amis, ni en famille. On parle jamais de nous. On ne s'entend jamais nous-mêmes parler de nous. Là, vous me voyez venir, hein? C'est pour ça qu'on a peur de se vanter. On n'est tellement pas habitué de verbaliser le fait qu'on parle du plus beau produit en ville, nous-mêmes, qu'il faut se pratiquer. Prenez des marches, allez dehors, parlez-vous à voix haute, amenez votre bilan personnel, vous avez parlé de vos forces, vos compétences, vos limites, puis pratiquez-vous à parler. On offre au service de la simulation d'entrevue. Pourquoi ne pas prendre un rendez-vous avec le conseiller en emploi qui est attitré à votre faculté, en l'occurrence moi.
Un petit peu de pub, là.
Et où je peux vous poser des questions. Faites-le avec des amis. Puis savez-vous quoi? Ça se pourrait qu'il y ait des employeurs qui vous invitent à des entrevues virtuelles. Pratiquez-vous avec des amis en Zoom aussi. Faites-le pas juste avec un café à cafétéria. Créez-vous une salle virtuelle Zoom, pratiquez des questions. Puis dites-vous que le meilleur truc, là, c'est l'honnêteté. Si on vous pose des questions puis vous ne connaissez pas la réponse, là, ben vous répondez « je ne le sais pas ». C'est tout. Il ne faut pas créer des réponses en fonction de ce qu'on pense qui pourrait être intéressant. Alors, deux outils à vous recommander. Le guide carrière en droit dans lequel il y a des exemples de questions que vous pouvez lire. Et bien entendu, les simulations d'entrevue à travers lesquelles moi, je peux vous accompagner.
Bien, merci Dominique. Colin, c'est vraiment intéressant. Toute l'information là, qui a été dite au cours du podcast là, aujourd'hui, bien, ça va être disponible sur un one-pager que je vais publier sur la page Droit Laval. Ça va être vraiment intéressant. Fait que oui, écoutez le podcast. Fait que, en tout cas, écoutez le podcast si vous êtes rendu ici, vous l'avez sûrement écouté. Puis après, ben, tu sais, au lieu d'avoir pris des notes, là, tu sais, vraiment, je vais vous mettre l'information pertinente, les catégories du CV, tout ça, là, sur Droit Laval. Et sinon, c'est aussi disponible sur le site, c'est pas le site de la faculté, c'est...
Le service du développement professionnel.
Tout est là, CV, lettre de présentation, entrevue, ils ont tous des petits trucs pour nous, là, vraiment des beaux outils qui nous sont offerts.
Puis mon petit mot de la fin, là, si je peux me permettre, savez-vous ce que ce serait? Assurez-vous de toujours vous trouver beau et bon et performant. L'entrevue puis la recherche d'emploi en général, ça peut vous rapprocher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un sentiment potentiel de rejet. Hein? On veut pas échouer. On veut pas vivre ces émotions-là, mais ça fait partie du processus. Il y en a qui l'emportent puis il y en a qui l'emportent pas. Moi, souvent, l'exemple que je donne aux gens, c'est l'exemple de l'ego dans le garde-robe. Hein, notre ego là, qui nous fait souffrir là, puis qui nous fait vivre des émotions. Quand vous vous préparez là, à aller en activité réseautage ou à aller en entrevue, là, on a une petite porte sur le cœur invisible. Là. Ouvrez cette petite porte-là, allez chercher votre ego dans le fond de vous-même. Puis là, ouvrez votre garde-robe chez vous, puis lancez votre ego dans le fond de votre garde-robe, puis refermez la porte. Pour vous assurer que dans toutes ces démarches-là, là, vous êtes quelqu'un d'intéressant, mais ça se pourrait que ce que l'on cherche, c'est pas ce que vous avez à offrir. Alors, cette stratégie-là, rappelez-vous-en pour vous permettre de pas trop prendre les choses personnelles, puis de pas rester dans la déception trop longtemps. Si vous obtenez pas ce que vous voulez, c'est correct, on peut être mal pendant 24 heures, mais après, on se retrousse les manches, puis on se reprend, puis on continue d'avancer.
C'est bien dit, Dominique, comme toujours. Bon, bien, écoutez, c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Et pour les auditeurs, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Droit de parole.